France Inter, le 18-20.
Si vous passez le bac lundi, le début des épreuves pour tout le monde, les filières générales, les filières pro, techno, si vous passez le bac, donc de deux choses l'une. Il y a les rois de l'organisation, ceux qui ont des fiches en couleur, ceux qui ont testé leurs connaissances dans les annales, ils sont prêts. Il y a ceux qui n'ont rien fichu ou pas grand-chose. Leurs parents ont attaqué leur phalange après les ongles, mais ils sont assez sereins et comptent sur la chance dans le sujet qui tombera. Et ma foi, la chance, ça existe aussi. Il doit bien y avoir un entre-deux, et sans doute êtes-vous dans cet entre-deux, vous ou vos enfants, vous allez les reconnaître. Vous êtes peut-être celui qui a révisé, mais qui commence à avoir peur, celui qui se noie dans ses fiches, celui qui a l'impression d'avoir déjà tout oublié, celui qui regrette les impasses, celui qui n'aurait pas dû regarder le foot à l'été hier soir, celui qui prévoit un week-end finalement assez tranquille, mais qui préfère s'enfermer avec des livres quand même à un moment à la fin du week-end, celui qui va aller voir Rocketman au cinéma, parce que ben quoi, faut bien réviser l'anglais, celui qui se dit que les révisions sur YouTube avec les blogueurs, et ben ça marche tout aussi bien. Si vous êtes dans le club des parents, il est trop tard pour envoyer votre enfant dans sa chambre, donc respirez par le ventre. Ou appelez-nous si vous êtes dans le club des profs, allez vous détendre aussi, sinon vous serez trop sévère et c'est pas bien. À tout le monde, il reste 3 jours seulement, essayons de les rendre un peu efficaces et soyez les bienvenus.
Fabienne Synthès. Le téléphone sonne.
Pauvre Antoine, c'est vous le premier et on vous écoute. Allez-y Antoine.
Bonsoir.
Bonsoir.
Moi, je passe le bac lundi. Alors, j'ai bien fait mes fiches en couleur, comme vous l'avez bien dit dans votre introduction.
Moquez-vous, Antoine.
Tout au long de l'année, enfin presque. Mais mon principal problème, là, c'est le stress. J'aimerais réviser, ça me détendra peut-être. Mais j'ai aussi l'anniversaire d'un ami ce week-end et... Bon, comme ils ont tous le bac, ils s'en fichent un peu. Je ne sais pas si je dois y aller ou pas. Je ne sais pas s'ils doivent me détendre ou réviser. Peut-être que ça me détendra plus.
Eh ben, vous avez le choix, dites donc. Vous avez un sacré week-end en perspective, vous, Antoine. Merci beaucoup pour répondre à votre question, Antoine. Essayez de vous déstresser un peu. Vous et ceux qui viendront derrière, Marine Eschkoch est là. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur d'histoire géo, d'enseignement moral et civique.
Également. Oui.
En lycée, ouais, à Versailles. Dites donc, ça fait beaucoup. Emmanuel Piquet, bonsoir. Vous êtes psychopraticienne. Pardon, vous êtes fondatrice du Centre Chagrin Scolaire, centre de consultation et de formation spécialisé dans la gestion des souffrances à l'école. Allez, essayons de tranquilliser Antoine. Est-ce qu'il y va à sa fameuse soirée, Marine Eschkoch ?
Bah écoutez, oui, je pense qu'il y va. Simplement, il va faire attention peut-être de ne pas se coucher trop tard. Simplement,
il ne boira pas, Antoine.
Il ne boira pas. Il essaiera effectivement de se tenir dans des conditions à peu près correctes, de ne pas se mettre la tête à l'envers. Ça semble quand même assez évident. Je ne crois pas que ce soit le scoop du jour. Et puis, apparemment, il est déjà très bien organisé. Il a ses fiches, les choses dans sa tête ont l'air à peu près claires, donc je pense que ça va bien se passer. Donc l'idée, c'est quand même à la fois de travailler, de réviser, de se reposer, évidemment, pour arriver vraiment en forme, et puis de se détendre un petit peu, mais pas trop, parce qu'il faut quand même rester concentré, c'est un peu la base aussi.
Emmanuel Piquet, on va essayer de rester assez léger ce soir, assez serein, mais enfin, il y a quand même des gens qui ont vraiment peur, qui sont vraiment stressés, et pour le coup, ce serait vraiment dommage que ce trac-là soit littéralement paralysant. C'est maintenant, le stress, c'est maintenant, au fond, c'est 3 jours avant, non ? C'est quand on réalise la montagne qu'on a en face de soi, qu'on est juste en bas.
Ça dépend. En fait, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'il y a des stress qui arrivent là maintenant et de façon assez logique, puisqu'il y a des lycéens qui n'ont pas beaucoup travaillé, donc c'est logique de stresser, on ne va pas se mentir. Il y en a qui ont beaucoup travaillé, qui stressent quand même. C'est vraiment un stress très différent. Ouais. C'est-à-dire que ces lycéens-là, souvent, on les reçoit.
Le stress du bon élève et le stress du
mauvais élève. Oui, voilà, exactement. Et on les reçoit et on les reçoit tout au long de l'année, en fait, parce qu'ils ont des stress même pendant finalement les évaluations. Donc il y a deux stress très différents, là. Maintenant, moi, ce que je pense pour Antoine, c'est que si il veut vraiment prendre du plaisir pendant sa soirée, parce que le risque, c'est que du coup, il se gâche sa soirée, c'est qu'il faut qu'il travaille un peu avant et un peu après. Comme ça, ce sera le mieux.
L'idée, alors, pas forcément juste en rentrant de la soirée, mais,
non, le lendemain.
Mais au moins le lendemain. Cela dit, sincèrement, si on est en retard, on a tous fait des impasses, on a tous passé le bac avant vous, amis qui nous écoutez. Si on a fait des impasses et on fait tous des impasses, est-ce que si on a un moment de regret, on jette un œil ou on se dit tant pis, j'approfondis le reste, Marine Eschkoch?
Ah ben non, clairement, on jette un œil. Enfin, moi, ça me semble.
Vous êtes anti-impasse, vous les profs.
Bah, c'est-à-dire, je suis anti-impasse. En même temps, j'ai un peu des arguments parce que il y a quand même en histoire géo, puisque c'est ma matière, l'Afrique est quand même tombée 3 années de suite.
Ah.
Donc ceux qui se sont dit bon bah c'est tombé l'année dernière, je fais l'impasse sur l'Afrique. Bon, et ceux qui se sont dit c'est tombé 2 fois, ça va pas tomber 3 fois. Bon, donc voilà, je pense qu'effectivement, la question des impasses, c'est un peu dangereux. Moi, j'aurais tendance à préconiser de repasser. Les manuels sont extrêmement bien faits, hein, je dis souvent à mes élèves, et ils offrent des espèces de pages de synthèse avec vraiment des gros titres et l'essentiel, ce qui permettra au minimum de s'en sortir à minima, quoi, de faire au moins quelque chose et de pas être complètement tétanisé.
Donc, les manuels ou les annales d'ailleurs, est-ce qu'il faut aller chercher dans les annales?
Moi, je préfère les manuels. Ouais. Je trouve que les manuels maintenant offrent toujours, en chaque tête de chapitre, vous avez deux pages qui vraiment, encore une fois, résument et mettent en évidence les points principaux de façon généralement problématisée. Bon, c'est vrai que je parle surtout pour l'histoire-géo, mais j'imagine que c'est à peu près la même chose en SVT ou dans d'autres matières, en philosophie. Alors en philosophie, peut-être pas, remarquez.
Enfin, vous avez une matière où, avec un peu de culture générale, on peut aussi aller chercher des choses. Quand on a fait des impasses en maths, en physique ou des matières de ce genre-là, là, pour le coup, c'est plus dur, non?
Bah oui, bien sûr. Effectivement, c'est plus dur. Donc là, peut-être que sur certains pans, certaines parties du programme de maths ou de physique, peut-être qu'on peut décider de faire la passe si effectivement le volume est trop important. De toute façon, je pense que maintenant, les épreuves offrent quand même pas mal d'exercices différents et permettent. Enfin, de toute façon, il faut quand même bien garder en tête que tout est fait pour que les élèves entre guillemets, réussi. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un concours, c'est un examen. On n'est quand même pas loin des 90% d'admis.
Hein. Oui, mais ça stresse terriblement. Ouais. Moi, j'ai des copines dont les enfants passent le bac en ce moment. C'est la chose la plus terrible qu'on peut leur dire.
C'est la moins apaisante.
Mais
du monde,
c'est terrible. Ouais.
Pourquoi?
Parce que quand on est, si on est dans les 10%,
on est vraiment nul.
C'est
quoi.
Qu'on est totalement stupide. C'est absolument atroce.
Mais en général, ça n'arrive pas. Enfin, je veux dire, il y a très, très peu de.
Bah, si, il en reste 10%.
Ça fait quand même 80 000 lycéens. C'est pas rien, c'est quand même une grosse masse. Donc, mais en même temps,
là, il y en a une dizaine d'autres qui sont sous la table au moment de vous écouter, Marie-Neige Coche.
Oui, mais enfin, en même temps, avec avec le jeu des coefficients, avec il y a quand même beaucoup d'épreuves. Donc, on peut, je pense, rater une épreuve et se récupérer. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut vraiment aller jusqu'au bout, à chaque fois essayer de donner le maximum, et ça marche.
Et c'est intéressant, Emmanuel Piquet, ce que dit Marie-Neige Coche aussi sur si on rate la première épreuve, par exemple, ou même la deuxième, peu importe, c'est la philo, c'est l'histoire géo. Surtout rester concentré, surtout pas se dire que c'est foutu. Donc de toute façon, on y va tranquillement pour les autres parce que c'est mort en fait.
Et c'est-à-dire que, encore une fois, moi je fais vraiment la distinction. Hein, c'est-à-dire que moi j'ai assez peu de compassion pour ceux qui n'ont rien fait du tout en fait. Hein, parce que moi je pense que quand on fait un peu pendant son année de ses
années premières. Tant pis pour toi, Kevin.
Non, mais je veux dire, voilà, il faut bien se prendre des portes des fois dans la vie, c'est pas grave. Je préfère qu'ils se les prennent maintenant parce que quand ils se les prennent plus tard, c'est plus compliqué parce qu'ils ont plein d'autres choses à gérer. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a quand même 60% des étudiants qui rentrent en première année de licence, qui finalement soit redoublent, soit sortent du système études supérieures. Donc, simplement, ce que je crois, c'est que pour ceux qui, en revanche, sont tétanisés par le stress, alors qu'ils savent, parce que c'est ça qui est juste horrible, quand même. L'injustice, elle est là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on commence à plus être en connexion avec son cerveau parce que l'angoisse nous envahit. Et là, alors, je crois, à l'inverse, que il faut justement pas trop se dire « concentre-toi, tu le sais, souviens-toi ». Parce que ça met, en fait, dans une espèce de stress abyssal, quoi. Moi, je préconise plutôt, et je les aide beaucoup à faire ça, à dire « ok, là, si, là, pour l'instant, t'es déconnecté par rapport à ton cerveau, donc tourne ta page et dessine des licornes ou des fleurs, enfin, des trucs débiles. » Remets en route, en fait. Remets en route, mais de façon, vous voyez, processive, un peu naturelle. Et puis ensuite, au bout de 5 minutes, tu retournes ta feuille et tu recommences. Mais surtout, pas rentrer dans cette espèce de... comme un hamster dans une roue qui se met à tourner de plus en plus vite et qui est complètement déconnecté de ses ressources, finalement.
Est-ce que c'est le même track, le track avant l'examen, le track avant le bac? Est-ce que c'est le même track que le track avant de jouer du piano devant des gens, le track avant de monter sur scène quand on est apprenti comédien? Est-ce que c'est exactement le même spectre, en fait, ou pas?
Oui, alors, c'est-à-dire que le track, c'est quelque chose d'assez instrumental, comme disait Sarah Bernard à une de ses étudiants qui disait « je ne comprends pas, mais je n'ai pas le track », elle lui a répondu «
quand vous aurez du talent, vous aurez le track
». C'est ça. Il y a track, il y a stress, il y a peur et puis il y a angoisse. Et le problème de l'angoisse, c'est sur le même spectre, mais c'est tellement submergent que ça coupe.
Enfin, c'est alors au stade track... de ce qui empêche de bouger, en fait, alors que ça peut être aussi un moteur, au fond.
Absolument, le track est moteur, de mon point de vue.
Bonsoir, Roger.
Oui, bonsoir, Fabienne.
Et bienvenue dans le téléphone sonne, Roger.
Merci. Alors moi, on vous parliez de track. Je pense que j'ai le track du papa qui a l'impression que sa fille n'a pas fait grand-chose. donc je ne sais pas, comme beaucoup de parents, je ne sais pas si je dois lui mettre la pression, si je dois la rassurer, si je dois l'emmener au restaurant.
Voilà.
je pense que comme beaucoup de parents, on est un peu perdu aussi.
Merci Roger. Évidemment que vous êtes perdu aussi. C'est pas fini, si je puis me permettre. Vous n'en êtes qu'au début. Il y en a plein des questions comme ça. Ma fille passe le bac lundi. Je suis plus stressée qu'elle. Comment faire pour l'aider? aider sans lui transmettre mes doutes. Comment on peut faire l'une ou l'autre, Marie-Neige Coche?
Bah écoutez, je sais pas très bien là. Moi, effectivement, je pense qu'il faut que ses parents relativisent et ne transmettent pas leur propre angoisse, parce que sinon ça va faire beaucoup. Donc
c'est trop tard pour l'envoyer réviser dans sa chambre, non?
Bah je pense que c'est peine perdue de toute façon. Donc il faut faire confiance, tout en établissant, il me semble, quand même un cadre, hein, tout simplement, et en rappelant des choses très très fondamentales et très simples, comme on a dit tout à l'heure. Hein.
Moi, j'ai souvenir comme tout le monde hein, d'examen où est-ce que t'as révisé, où t'en es, monte dans ta chambre, et puis une fois que l'épreuve est finie, comment ça s'est passé, qu'est-ce que t'as répondu.
Oui, est-ce
qu'il n'y a pas un moment, est-ce qu'on peut dire que c'est maintenant d'ailleurs, Emmanuel Piquet, où les parents, tant pis, hein, laissez les faire, tant pis, on verra bien ce que ça donnera, de toute façon ils peuvent pas être derrière au moment de l'épreuve, donc tant pis, et foutez-leur la paix jusque, je sais plus quelle est la date, jusqu'au 20 juillet quand les résultats seront là.
Oui, c'est-à-dire que,
est-ce qu'on peut
se
mettre d'accord là-dessus?
C'est un peu plus tôt, quand
c'est très
c'est
plutôt.
C'est 5 juillet.
Oui, 5 juillet, 5 juillet, pardon, et 10 juillet pour le rattrapage, pardon, ouais, 5 juillet.
Bah, c'est-à-dire que c'est en effet extrêmement compliqué. Moi, ce que je constate, ce qui est assez, et je le dis de façon très affectueuse, c'est qu'en effet, nous, on constate que sur l'échelle du stress et de l'angoisse, le stress parental est environ deux fois supérieur à celui des enfants qui passent le bac. Moi, je veux dire, au mois de juin, on a des mamans qui viennent pour d'autres sujets, hein, peu importe, consulter, et je leur dis ça va, elles disent bah non, on a physique demain.
Oui.
Et moi je dis,
qu'est-ce
que c'est que ce
on connaît tous, on passe le bac cette année.
Ouais, on a le bac cette année. Donc et le problème c'est que soit l'enfant est très angoissé déjà. Et en effet, là, je partage très clairement ce que dit Marie-Neige, c'est-à-dire que là, le risque, c'est que ça amplifie, parce que la personne que j'aime le plus au monde, lorsqu'elle me regarde, a l'air de dire ça va pas être facile. C'est pas forcément très bon. Si l'enfant n'est pas angoissé, ça aura pas beaucoup d'impact, sauf que ça va lui faire un peu mal aux oreilles, mais ça aura pas beaucoup d'impact. Donc, si l'enfant est angoissé, en revanche, je pense qu'il est vraiment extrêmement important de pas nier cette angoisse, justement, de pas dire mais non, t'inquiète pas, ça va bien se passer, 90% et tout ça.
Bah ouais.
C'est de dire je comprends que t'aies peur, parce que ça fait peur, ça fait super peur, parce qu'en plus c'est vraiment, on se dit c'est plus le Graal comme ça a pu l'être à un moment donné, mais c'est sans ça il y a rien derrière. Donc et puis autre point intéressant, moi je reçois des lycéens qui ont peur de l'avoir, le bac.
Allons bon.
Eh ben oui.
La peur de gagner.
Bah, c'est-à-dire que surtout derrière, pour ceux qui, par exemple, vont quitter chez papa-maman, comme ils sont pas exactement autonomes sur un certain nombre de sujets, ça va faire beaucoup de choses à prendre en charge en première année post-bac.
Est-ce que, j'y faisais allusion à l'instant, comment ça s'est passé l'épreuve? Qu'est-ce que t'as répondu? Est-ce qu'il vaut mieux éviter à son gamin des questions de ce genre-là? Moi, je me souviens que je n'allais jamais regarder les corrections. Et alors, à mon époque, il y en avait moins que, parce qu'il n'y avait pas Internet. Je suis née à l'âge de pierre. Ouais. Mais, est-ce que c'est un conseil à leur donner que d'aller voir sur internet ou ailleurs les corrections des épreuves?
Bah là, je crois que, enfin, il y a ni conseil à donner ni à pas donner. Ils font bien comme ils ont envie.
Alors,
ça change
oui,
rien parce que
oui, mais
moi je pense qu'il faut de toute façon plutôt se projeter sur l'épreuve suivante, parce que si on commence à réfléchir, sachant que quand même l'expérience prouve qu'on s'auto-évalue très mal, donc une fois qu'on a passé une épreuve, il vaut mieux se projeter dans la suivante plutôt que se demander si on a fait un bon plan ou pas. Hein. Surtout que les premières épreuves, c'est la philosophie et l'histoire géo. Bon, je veux dire, il va y avoir des plans effectivement qui vont être proposés sur les forums, je veux dire, plein d'autres plans seront tout à fait acceptables et donneront des très bons résultats. Donc, je vois pas trop bien l'utilité. Hein. D'une journée sur l'autre, je pense qu'il vaut mieux se mettre en état. Tout à l'heure, vous parliez de Rocketman, là, par rapport à... Moi, je trouve que c'est pas une mauvaise idée d'aller voir Rocketman la veille du jour où il y a
l'épreuve d'anglais.
La LV1, si c'est l'épreuve d'anglais. Bah, pour d'autres, ça peut être
très bel accent british.
Mais il y a aussi des films en espagnol ou en allemand qu'on peut
voilà,
voir.
Il y a un Almodovar en ce moment qui est très, très bien.
Anglais, donc, exactement. Bon, enfin, je sais pas si ça va beaucoup leur plaire aux 17 ans, le dernier Almodovar. Mais bon, bref, enfin, ils feront bien comme ils voudront. Mais
exactement.
En tout cas, moi, c'était un des conseils que, justement, je voulais proposer. C'était précisément d'aller voir un film ou en restant à la maison, hein, en langue étrangère, pour se mettre un petit peu dans le bain la veille de l'épreuve de LV1, mercredi.
Allez,
et même chose pour vendredi.
Catherine, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Catherine.
Alors, moi, ce soir, bon, je vous annonce la couleur. Je pense que je vais vraiment... je vais être la neuneu de service.
Allons bon, ne vous inquiétez pas, on est un club.
Voilà, la rêveuse du soir et l'innocente du système. Et à vous écouter dans ma cuisine sur la peur, l'angoisse, le stress, je me disais, oh là là, je rêve d'un monde où apprendre ne sera pas associé à tout ça. Où apprendre ne sera pas synonyme de peur, d'angoisse, de stress, d'examen, de compétition, de réussir, d'échouer. Vraiment, vous écoutant, je rêvais de ce monde-là, pour les jeunes, voilà.
Et en même temps, Catherine, pardon, vous avez le bac, vous ou pas, Catherine?
Alors moi, j'ai le bac, je l'ai eu à l'arraché.
Ce que je voulais savoir, c'est est-ce que c'était, parce que moi j'aime bien l'idée qu'on joue aussi beaucoup avec ce stress, ça fait partie de l'épreuve au fond, que ce stress-là, moi j'ai un peu ce sentiment-là, donc à la fois bien sûr qu'il y a des gamins qui sont vraiment angoissés et qu'il faut prendre au sérieux, effectivement Emmanuel Piquet nous le racontait, cette angoisse, mais il y a aussi tout un cérémonial en fait autour de ce stress-là, parce que ça fait du bien aussi d'être dans la même peur, il y a quelque chose d'assez presque réjouissant, moi je trouve, d'être ensemble à passer le même exercice. Est-ce que Catherine, vous avez un souvenir de ça aussi pendant vos épreuves, que ce soit le bac ou autre chose? D'ailleurs, après tout, on est tous dans cette même galère et donc on est ensemble dans cette même peur-là. C'est pas si mal, non?
Alors, je pense que, en vous écoutant, je me disais, j'aime bien comment ça résonne pour vous, ce mot ensemble. Mais par contre, c'est quand même dingue que le mot ensemble, ça soit souvent sur des choses adrénaliniques ou de stress ou de choses comme ça. Parce que je pense qu'on pourrait être ensemble dans les apprentissages d'une façon totalement différente.
Merci beaucoup Catherine. Dans un monde idéal, Emmanuel Piquet a raison, Catherine, évidemment, pas d'angoisse. D'ailleurs, ça c'est pas l'angoisse d'apprendre, c'est pas pas apprendre qui est une angoisse là, c'est être capable de raconter ce qu'on a appris. Au fond, bien sûr que dans un monde idéal, on y va la fleur au fusil, on a peur de rien, on est juste heureux d'avoir ce bagage pour nous.
Oui, c'est ça, c'est l'angoisse de l'échec en fait, hein, d'une certaine façon, l'angoisse à l'idée de décevoir, de se décevoir soi-même, hein, l'autodéception est une émotion qui peut être très forte chez les jeunes. Donc et en même temps, comme disait je ne sais plus qui, Sénèque sans doute, à vaincre sans péril, on réussit sans gloire. Et donc moi je trouve que alors je suis d'accord avec
cette phrase parce que pour l'épreuve de philo, à vaincre sans péril, on réussit sans gloire.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que tant que c'est du trac, je suis absolument d'accord avec vous. Quand c'est de l'angoisse, je suis d'accord avec Catherine, ça va pas que ça crée de l'angoisse. Et alors je redis, hein, je pense que vraiment pour les enfants angoissés, ce qui est extrêmement important lorsqu'on est parent ou enseignant d'ailleurs, de mon point de vue, c'est vraiment de dire je comprends que tu aies peur. Et qu'on rajoute pas de mais derrière, parce qu'on est quand même les spécialistes pour dire mais non, mais ça va bien se passer, mais au pire, c'est pas grave, etc. C'est de dire je comprends que t'aies peur chérie, et comme je ne suis que ta maman ou que ton papa, ben je peux te faire un câlin ou regarder une série, bien entendu, sous-titré anglais, avec toi, ou te faire une tartine de pâte à tartiner sans...
Même si c'est pas bon, même pour une fois, si tu peux avoir droit à l'huile de palme.
Parce que je sais rien faire d'autre que ça. Et en même temps, je comprends tes peurs parce que moi, j'ai eu super peur à ce moment-là. Et ça, c'est extrêmement apaisant. Parce que le fait de dire n'aie pas peur, tu n'as aucune raison d'avoir peur, le fait, grosso modo, avec toutes les émotions, hein, d'essayer de les nier d'une certaine manière ou de les faire disparaître, ça marche assez peu lorsqu'elles sont paroxystiques à ce point-là, hein, je veux dire.
Bonsoir Nicolas.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Nicolas.
Oui, alors moi, ma technique pour passer le bac, elle était simple. Comme j'avais pas beaucoup travaillé, réviser n'avait pas vraiment de sens. Je me suis dit, le peu que je sais, il faut que je le sache bien. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup dormi pendant les révisions. La semaine de... Comme ça, au moins, j'avais ma mémoire en parfait état de marche. Et le peu que je savais, je pouvais aller pomper dessus. Et surtout, dans la salle de l'examen, si ça passe toujours comme ça, on distribue d'abord les feuilles de brouillon, puis ensuite les sujets. Moi, dès que j'ai eu les feuilles de brouillon en main, j'ai commencé à réciter ce que je savais, ce qui me venait par la tête. En histoire, je suis tombé sur la guerre de la vie dans les tranchées de 14 à 17, donc j'ai commencé à rédiger des mots. Bon, mais là, c'était avant préparation, j'avais commencé à écrire des mots. En maths, c'était réciter des formules, réciter des axiomes, parce qu'il fallait peut-être en réciter. En physique, je savais pas grand-chose, donc là, ça s'est pas très bien passé. mais voilà, l'essentiel était de commencer à mettre le cerveau en route, en ce que je sais, ce qui me passe par la tête. Je suis dans la matière, voilà, j'écris des choses liées à la matière, et ça m'a permis de l'avoir, le bac, sans passer l'oral, donc voilà.
Eh ben, bravo. Bravo, voilà. Oui, attendez, c'était il y a combien de temps, Nicolas?
Oula,
ouais, oula. C'est bien ce que je me disais. Ok, ne répondez pas. Ne répondez pas, c'est pas grave.
38 ans.
C'est pas grave.
Je ne sais plus compter, vous voyez. 35 ans, à peu près. Non, 37, 38, oui, c'est ça.
ça va aller quand même. Est-ce qu'elle est bonne, la technique, Emmanuel Piquet? Est-ce qu'elle est bonne, la technique de Nicolas, selon vous? Il faut que ça tombe juste, hein, parce que si, effectivement, on a révisé que la Première Guerre mondiale et qu'on met les mots de la Première Guerre mondiale, c'est super quand on tombe sur la vie dans les tranchées de 14 à 17, mais enfin, si on tombe sur la crise de 29, c'est beaucoup plus dur.
Non, moi, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je pense que pour les gens qui savent, mais qui commencent à paniquer et à perdre leurs moyens, je pense que vraiment la technique de Nicolas est la bonne, c'est-à-dire se remettre dans son processus naturel, parce que l'angoisse vient couper, en fait, hein, d'une certaine manière.
Et quitter le par cœur, non, Marie-Neige Coche. Vous êtes prof d'histoire et de géo, donc on peut raconter une histoire quand on raconte la vie dans les tranchées, on n'est pas obligé de se souvenir date par date, moment par moment, c'est pas ça qu'attend un correcteur.
Non, évidemment. Non, il attend, effectivement, il peut attendre. Parce qu'il attend. Qu'est-ce qu'il attend vraiment?
Oui, qu'est-ce
il
que
attend...
vous attendez vraiment?
Ça dépend des matières. Après, je peux parler, effectivement, pour l'histoire géo, je peux parler pour les sciences économiques, la philosophie, où je pense que dans toutes les matières, c'est vrai, parce que même si j'ai un peu perdu le contact avec les mathématiques, mais c'est pareil, on attend un raisonnement. Donc, on n'attend pas du tout, c'est fini, l'idée d'un catalogue, de quelque chose d'encyclopédique, c'est pas du tout ça. Si on sent qu'il y a eu la perception vraiment...
On a compris quelque chose,
qu'on est capable de raisonner, voilà, ça va marcher. Hein. Évidemment, si c'est très bien écrit, si il y a plein de connaissances, c'est encore mieux. Mais je veux dire, au départ, on peut s'en sortir en réfléchissant exactement comme ça a été dit par l'auditeur et comme ça a été dit par Emmanuel Piquet, c'est-à-dire effectivement se poser, se rassembler et y aller avec ce qu'on a, parce qu'on a quand même passé 3 ans au lycée, mine de rien, hein, donc des choses on en sait. Il faut se battre jusqu'au bout, quoi.
Absolument. Battez-vous jusqu'au bout, effectivement, et jusqu'au bout des épreuves. Puis il faut se battre.
Je suis peut-être un petit peu trop.
On est d'accord avec le vocabulaire guerrier.
Non, mais il faut essayer d'extraire, effectivement, de se souvenir de ce bain qu'on a eu. Il faut essayer de mettre en pratique les conseils des professeurs aussi, peut-être se souvenir des conseils des professeurs, parce que les professeurs, ils sont quand même vraiment très près des élèves.
Lisez l'énoncé. Je salue Monsieur Windecker, qui était mon prof de philo en terminale. Lisez correctement la phrase.
Oui, c'est pas mal ça comme conseil.
Absolument.
Une très mauvaise idée, comme vous disiez, c'est d'apprendre par cœur des choses qu'on ne comprend pas. Ça peut être vraiment le truc du bachotage. Et je pense que vraiment se mettre dans la tête des choses qu'on ne comprend pas, c'est comme si on s'y mettait des ordures d'une certaine manière. Et du coup, on n'y a plus accès non plus et on se bourre la tête avec des choses qui n'ont pas de sens pour nous, en tout cas. C'est pour ça que je suis hyper d'accord sur le manuel d'histoire géo qu'on peut juste relire, refermer en se disant en une phrase, qu'est-ce que j'ai compris de tout ça? Ça a beaucoup plus de sens et c'est beaucoup plus accessible, même lorsqu'on est en trac.
Même lorsqu'on est en trac, pardon.
Exactement. Non, mais c'est beaucoup plus accessible, du coup, pour pouvoir faire quelque chose,
enfin, produire quelque chose. Dans des connaissances qu'on n'arrive plus à trier, quoi.
On parlait des parents qui sont stressés. Il y a les grands-parents qui le sont aussi. C'est peut-être encore plus compliqué parce qu'à la fois, ils sont là, mais pas forcément là physiquement. L'une de mes petites filles, qui a 1 an d'avance, bonne élève, studieuse, sérieuse, est complètement tétanisée à la veille des épreuves, et notamment à cause de l'oral. Comment l'aider? 1 an d'avance, on est plus jeune, c'est plus difficile quand on est plus jeune. On peut être très très bon académiquement, Emmanuel Piquet. C'est compliqué quand on est plus jeune dans sa tête aussi, non, peut-être?
Oui, alors je crois vraiment que vraiment l'oral c'est très très angoissant parce qu'on a l'impression qu'on nous regarde en plus. Je veux dire, on n'est pas que sur du cérébral, donc on est là face à quelqu'un. Il faut en plus avoir une interaction. Alors un conseil qui fonctionne vraiment très bien et qui est difficile à mettre en œuvre, c'est que au fond la crainte de l'oral, enfin l'angoisse de l'oral, c'est un peu comme un complexe. C'est-à-dire que plus on dissimule le fait qu'on a peur et plus les gens le voient, en fait, parce qu'on se met à suer, on se met à trembler, on se met à bégayer. Et donc ce que je conseille moi très fortement, c'est de dire au fond: pardonnez-moi, je suis stressée, donc il se peut que je bégaye. Parce que à partir du moment où on fait ça, on met son stress sur la table et il est plus à l'intérieur. Quand il est à l'intérieur, on est en permanence en train de se battre contre. C'est comme s'il y avait 2 Fabiennes qui se battaient, une qui a super peur et une qui dit arrête d'avoir peur. Et du coup, on n'est pas justement en relation. Donc ça, c'est quelque chose qui prend 2 minutes, c'est du courage. Et la plupart du temps, les examinateurs disent prenez un verre d'eau ou...
Vous voulez que je vous raconte mon oral de bac français, l'autodafé de Candide, il y eut à Lisbonne un autodafé, c'est la première phrase, et pour me mettre à l'aise, l'examinatrice m'a dit: ça se passe dans quel pays? J'ai répondu: ben en Espagne. Elle l'a mis sur le compte du stress, je la remercie encore. Et ça s'est passé après. Cela dit, Marie-Neige Coche, l'oral, c'est quand même quelque chose que vous allez devoir appréhender, vous les profs, parce qu'à partir du nouveau bac, il y en aura plus de l'oral, il y a même ce fameux grand oral, donc il faudra le prendre à bras le corps aussi.
Ouais, mais en fait, des oraux, on en fait déjà passer. On en fait passer notamment dans les langues. Enfin, moi, je suis professeur d'histoire en espagnol, en DNL, donc on fait passer des oraux, on fait passer des entraînements d'oraux. Ouais. Les professeurs de lettres, maîtres font passer des oraux, ils ont fait au préalable fait passer des entraînements aux élèves. Donc en réalité, ce travail de l'oral, ça fait déjà longtemps qu'on l'a pris en charge. Hein. Et donc, je pense que par rapport à l'époque où nous on allait au lycée, il y a quand même un grand chemin qui a été parcouru, justement avec toute la connaissance qu'il y a autour des questions de stress. Mmh. C'est absolument intégré par les enseignants qui, bon, vous savez bien, le mot Graal, c'est la bienveillance. Bien sûr. Ouais. Donc, hein, elle a tout à fait pénétré tous les pores de l'éducation nationale et on va... Je suis un peu ironique, mais en vrai, ce qui se passe, hein, c'est qu'on va tout faire pour mettre les candidats à l'aise. Et s'ils se plantent, genre Lisbonne est en Espagne, c'est pas grave, on va poser des questions. Une jeune fille ou un jeune garçon complètement tétanisé, on va ouvrir le champ des questions pour lui donner l'occasion de se ressaisir, quoi.
Le pire
donc,
moment.
Je pense que vraiment, ouais. L'époque des
le pire moment de l'oral, c'est quand on attend dans le couloir, en fait. Au fond, une fois qu'on y est, après.
Ouais, mais de toute façon, c'est évident. Voilà, exactement. C'est évident que ça fait peur quand on attend d'y aller, une fois qu'on y est.
Une fois qu'on y est, faut plonger, de toute façon. Bonsoir, Stéphanie.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, soyez la bienvenue.
Bonsoir. Juste pour vous dire, par rapport à ce que disait votre intervenante, alors je suis d'accord parce qu'on est tous différents, mais moi je n'ai jamais été encouragée par mes parents et j'ai toujours été rabaissée. Et j'ai fait bac plus 4, hein, voilà. Donc,
amis qui vous nous écoutez, si vous êtes rabaissée, c'est pas grave.
Non, pas du tout. Mais en tout cas, j'en ai peut-être tiré parti, je ne sais pas.
Ça n'a pas été paralysant pour vous, en tout cas, c'est ce que vous nous dites, Stéphanie, c'est important de l'entendre.
Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai complètement foiré mes années de lycée, parce que je ramenais un 18, ils voulaient un 20, voilà. Et du coup, j'ai passé ensuite mon bac en candidat libre et que j'ai fait ma vie par derrière, enfin voilà, par la suite, et que je suis allée à bac plus 4. Donc, je pense qu'en fait... ce n'est pas qu'une histoire aussi c'est pas que l'encouragement des parents, voilà, c'est aussi une envie, parce que j'avais envie de faire des études, j'avais envie de prolonger dans les matières que j'aimais, etc. Et du coup, je pense que voilà, c'est pas que les parents qui nous dictent nos envies.
Merci beaucoup. Pardon. Allez-y, finissez, Stéphanie. Voilà. Pardonnez-moi. Merci beaucoup pour ce témoignage parce qu'elle a raison, Stéphanie, Emmanuel Piquet. Il y a ce qui vient de l'extérieur et c'est tant mieux quand c'est positif, mais il y a aussi tout ce qu'on y amène nous, hein. Et c'est ça qui compte.
Et même paradoxalement, pour rejoindre ce que dit Stéphanie, moi je pense que actuellement, il peut à certains moments y avoir des parents qui ont plus de désirs que leurs enfants. Ouais. Et qu'au fond, moi j'ai l'impression que ça fonctionne un peu en vase communicant, c'est-à-dire que elle parle d'envie. Moi je pense que l'envie c'est quelque chose de très intime, et que finalement lorsqu'on se retrouve un peu seul puisqu'on n'est pas soutenu, puisque voilà, il y en a un certain nombre qui vont justement puiser dans leurs propres ressources, d'autres pourront pas, hein, évidemment, mais il y en a qui vont en effet puiser dans leurs propres ressources et se battre, et je pense qu'on est un peu à l'inverse là en ce moment, on est un peu dans l'excès inverse, c'est-à-dire une espèce de prise en charge très forte de la scolarité par les parents, alors que c'est aux enfants, à mon avis, de la prendre en charge. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'ils sont hyper stressés, hein, parce que ce sont leurs notes, finalement.
Mais bien sûr. J'ai raté mon épreuve de philo, j'ai réussi en histoire géo. Bonsoir, Magali.
Oui, bonsoir.
Allez-y, Magali, on vous écoute.
Donc, moi, c'est un témoignage donc, de maman, j'ai des jumeaux.
Double stress.
Oui, double stress, double
en
peine.
En même temps.
Et donc, un qui est en série ES et un qui est en série S. Celui qui est en série ES est dans mon lycée, puisque je suis moi-même professeur. Voilà, il n'est pas dans ma classe cette année, il l'a été, mais heureusement pour lui, il ne l'est pas cette année. Et donc, moi, je vois aussi un petit peu le fonctionnement de l'intérieur. Et bon, il est vrai que j'ai tendance à projeter mon stress peut-être encore plus que des parents, entre guillemets, traditionnels et qui ne sont pas dans le système, en fait. Je me garde bien de leur dire que le bac, ils l'auront a priori, puisqu'on est censé amener toute une classe d'âge quasiment au bac, donc je sais bien au fond de moi qu'ils l'auront. Mais voilà, c'est un stress de tous les jours. Alors moi, pendant que j'essaie de rentrer dans la chambre d'un de mes garçons qui a décidé de se barricader, j'ai eu cette surprise aujourd'hui, il s'est complètement barricadé, il m'a dit je ne veux pas d'entrée intempestive, je sais me débrouiller. Pendant ce temps-là, le papa, lui, refait tout le programme de physique avec l'autre qui est en S et qui trouvait très touchant qu'on puisse s'inquiéter pour son bac, alors que lui, même s'il n'a pas assez travaillé, il a quand même passé une très bonne année où il a le sentiment de s'être épanoui. Voilà.
Mais donc, du coup, est-ce que vous vous faites violence, Magali, pour pas vous en mêler ou pour pas aller voir derrière la barricade de celui qui se barricade? Est-ce que vous vous faites violence ou pas?
Bah, disons que quand on peut pas entrer par la porte, on passe par la fenêtre.
Ça veut dire, est-ce que vous y allez la nuit? C'est mal.
Non, donc en fait, les repas de famille se transforment en questions indirectes.
Quelle horreur!
T'as entendu ça là, à la radio? T'as entendu ça sur France Inter? Est-ce que tu as écouté? On ne retient pas, l'écho parce qu'il y avait un sujet très intéressant sur la SES, je pense que tu pourrais récupérer en podcast, enfin voilà quoi. Donc, on a vraiment hâte que tout soit fini et qu'on retrouve une vie entre guillemets normale. Parce que j'en ai quand même un troisième qui arrive derrière dans 2 ans et qui va essuyer les plâtres de la réforme, donc...
Eh ben, écoutez, bon courage à ces deux-là d'abord, et notamment celui qui est derrière sa barricade, et puis à ceux qui viendront derrière.
Mais merci. En tout cas, merci à France Culture, notamment pour ces podcasts, parce que c'est une super façon de réviser aussi.
Ah, on a passé d'une vie pour écouter les podcasts de France Culture. On est ravis de voir qu'Alexandra Ben Saïd a servi de tuto donc pour les épreuves d'écho. Elle sera contente de le savoir. Marine Eschkoch, elle a raison, Magali. C'est compliqué quand on est de la partie, si je puis dire. Comment vous avez fait, vous? Comment vous faites? Est-ce que vous avez des enfants?
Est-ce que vous avez des... J'ai des filles, mais moi je pense que j'ai des filles qui sont à peu près comme les garçons de Magali, c'est-à-dire...
Barricadées
Oui, barricadées, mais en même temps, sans doute des élèves assez bons. Enfin, je pense qu'il faut vraiment fondamentalement leur faire confiance et pas rentrer par la fenêtre. Et justement, hein, qu'on est de la partie, on sait que... Bon, enfin, on est quand même en mesure de juger justement de l'état des choses et peut-être un peu moins de stresser. Non, mais ce que j'avais envie de dire, ils sont chouettes tous ces témoignages. Moi, je trouve que c'est ce que ça nous renvoie aussi, c'est des histoires de vie, quoi. Bon, donc voilà, c'est des histoires de famille, des moments extrêmement importants. Tout à l'heure, vous parliez du fait qu'ils sont ensemble à passer le bac. C'est vraiment, il y a quand même vraiment cette idée de rite de passage.
Moi, j'ai vraiment ce souvenir-là de mon bac
bien
au
sûr,
fond, en fait.
Et donc voilà, c'est la fin du lycée. On entre vraiment dans la vie d'adulte. Donc c'est assez beau. Bon, les parents sont stressés, mais voilà, chacun trouve sa voie. Les candidats, les élèves, les jeunes trouvent leur voie pour gérer avec leurs parents et dans quand même dans beaucoup de cas, je pense la majorité des cas, ça se passe juste très très bien quoi. Donc c'est assez chouette. Et puis bon, malgré la réforme, il va quand même rester des épreuves assez importantes. Donc l'épreuve reine de philosophie, à l'écrit, le grand oral dont vous parliez tout à l'heure. Donc de toute façon, il y aura encore quand même cette idée. Du passage, quoi, même si ce sera moins le marathon que c'est aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un peu marathon. Là, il y en a quand même jusqu'à l'un. Enfin, en fait,
ne vous éloignez pas du micro, Marine.
Six jours d'épreuve, si on prend toute la semaine qui vient, plus le lundi pour certaines options. Donc, ça, par contre, on l'aura plus.
Est-ce que c'est une histoire de vieux comme nous de se dire que le rite de passage, c'est important qu'il continue à exister, Emmanuel Piquet? Ou est-ce que finalement, s'il n'y en avait pas, ce serait pas si grave, au fond? Parce qu'on est là tous avec nos souvenirs. Et c'est vrai que moi, je me souviens parfaitement où j'étais quand j'ai appris que j'avais le bac, par exemple.
Oui, c'est ça.
Ça fait partie des marqueurs émotionnels. Absolument, des marqueurs émotionnels. Ouais.
Mais c'est surtout à ça, en fait, qu'on fait référence, je pense, quand on parle du... Moi, je crois au contraire que la jeune génération adore ça, les rites de passage. Je pense que c'est quelque chose qui les... En plus, c'est quelque chose qui les motive. Donc non, je crois pas qu'il y a plein d'autres trucs sur lesquels on est très, très vieille. Mais je veux dire, surtout moi. Mais pas là-dessus, je crois pas. Je crois que ça reste assez ancré dans leur motivation.
Allez, Damien, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Soyez le bienvenu, Damien.
Merci. Déjà, merci France Inter et Radio France pour toutes vos émissions, c'est extrêmement intéressant. En fait, pour partager une petite expérience, moi, je suis arrivé au bac, j'avais des facilités, donc je suis arrivé un petit peu la fleur au fusil, parce que j'ai des bons résultats pendant toute l'année, puis arrivé l'épreuve de philo, un gros plantage. Donc le stress a commencé à monter, ce qui fait que les épreuves suivantes, donc histoire, géo, biologie, ça s'est pas mal planté aussi. Donc après, je me suis dit, planter pour planter, de toute façon, je vais quand même aller à la suite, mais de façon un peu plus décontractée. J'étais prêt en classe prépa si j'avais le bac, donc j'avais un peu la pression quand même. En fait, les autres épreuves sont passées de façon assez correcte, ce qui m'a permis d'obtenir le bac en passant par la repêche. Mais bon, et à poursuivre les études de façon correcte, classe prépa, école d'ingénieur et un doctorat en mathématiques après. Donc le fait de
Ça s'est bien passé finalement pour vous.
Oui, ah oui, ça s'est plutôt vraiment bien passé. Mais c'est vraiment le côté, en fait, on peut ne pas avoir de stress avant. Mm-hmm. Le stress monte parce qu'on se plante sur la première. Ouais. Et puis, au bout d'un moment, en fait, on se dit, on y va quand même. Puis voilà. Et en fait, le stress redescend après.
Mm. Et c'est vrai que la première épreuve, c'est un peu terrible à dire parce qu'il faut pas que ce soit, il faut pas s'arrêter si ça s'est mal passé. Mais quand ça se passe bien, pouf, on a l'impression qu'on a une enclume sur chaque épaule qui s'est enlevée. Au fond, Damien, vous avez des enfants en âge de passer le bac ou pas?
Ah non, ils sont beaucoup plus jeunes, ils ont 6 et 9 ans.
Parce que je me demande ce que vous leur donnerez comme conseil lorsque ce sera leur tour, et si vous leur direz « vas-y tranquille comme ton père » ou
non,
si au fond... voilà.
Je ne pense pas, effectivement.
Mais, merci beaucoup Damien. D'ailleurs, on a cette question qui vient sur franceinter.fr et qui dit « est-il possible de toute façon d'apprendre dans un état de stress ?»
Non.
Ben voilà. Donc ce qu'on fait en ayant la trouille, ça rentre par un bout de cerveau, ça ressort par l'autre.
Surtout, on peut pas produire en fait surtout en état de stress. Le stress rend pas très intelligent d'une façon générale.
Oui, ça veut dire que effectivement, ça, c'est pas parce qu'on fait le tout dernier moment dans un état. J'ai fait une impasse. Je vais réviser dans le métro. Ça c'est pas une bonne idée. Ou dans le bus ou dans la voiture.
À la limite, pour apprendre, moi je suis d'accord avec Marie-Neige. On peut tout à coup, peut-être imprimer des choses. Mais c'est plutôt au moment de la production, moment où la feuille arrive, quoi, que en effet le stress déboule.
C'est ce que nous dit Micala sur l'appli de France Inter qui dit j'ai passé le bac il y a 25 ans. Un conseil pour les jeunes, restez très concentrés dès la distribution des sujets. Notez tout de suite les premières idées qui viennent, elles sont souvent bonnes et le stress part avec la suite.
Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ouais.
Tout se joue, Marie-Neige Coche, dans ces premières minutes. Alors, pas tout, on est d'accord,
mais après,
on est capable de jeter 2-3 trucs sur un bout de papier.
Ce qu'elle vient de dire, cette auditrice, effectivement, ça me parle à moi.
Ouais.
Moi, je vois les choses comme ça. Un autre auditeur l'a dit, mais bon, c'est vrai que c'est souvent des parents. Je sais pas comment les 17 ans actuels. Enfin, je veux dire, pour certains, ça va être ça, pour d'autres, ça va être autrement. Vous voyez, c'est vraiment très très personnel. Donc, effectivement, ça peut être une solution de tout sortir le plus vite possible pour être sûr d'avoir le matériau. Ça peut être une solution de laisser rebaisser un petit peu le stress, comme on a dit tout à l'heure. Enfin, voilà. Ce qu'on peut peut-être ajouter, c'est quand même cette idée que souvent, enfin, nous, on surveille évidemment les épreuves. Et bon, il y a quand même régulièrement des élèves qui nous rendent les copies avant la fin des épreuves. Donc, ça laisse quand même penser qu'il y a assez de temps. Alors, évidemment, il y en a toujours qui vont finir en catastrophe parce qu'ils ont énormément de choses à dire. Mais en réalité, je pense que le temps est quand même suffisant, donc ça laisse la possibilité de paniquer pendant 10 minutes, de se reprendre.
Et quand vous surveillez, que vous voyez quelqu'un qui est en état de panique, par exemple, vous avez le droit de vous approcher en lui disant « vas-y, respire, ça va aller » ou pas ? Ou le pauvre, dans ces cas-là...
Si, bien sûr, on peut... Oui, il y a des... Et puis ça arrive quelquefois qu'il y ait des manifestations même un peu plus fortes, et dans ces cas-là, c'est évidemment pris en charge, bien sûr, ouais.
Et respirer par le ventre, tout le monde, ça va aller, c'est pas si grave. On parle du bac général, on parle du bac pro, on parle du bac techno, on parle de tout le monde, des bacs pro agricoles notamment qui ont fini, ou quasiment d'ailleurs, et qu'on salue aussi, puisque pour eux c'est fini, ils sont en vacances, et tant mieux. Je vais vous laisser avec ce mail sur franceinter.fr qui dit « j'ai 59 ans, j'ai passé le bac en 78 et je rêve très régulièrement que je passe le bac et que je me plante, c'est quand même un sacré stress, et c'est un très très long stress, on en est tous un petit peu là, ouais, mais ça va aller quand même. Allez, merci beaucoup et portez-vous bien. »